don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的母亲达木加
正忙着忙着忙着忙
着忙着忙着
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clément Salazar, Tiffaine de Roquigny, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en ondes ce matin par Nicolas Delmas. Troisième volet de notre série consacrée aux Panama Papers, cartographie d'un scandale. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre les paradis fiscaux.
Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord pour nous attaquer au fléau de l'évasion fiscale. Nous avons besoin de savoir qui détient réellement les sociétés, qui en profite, où sont payées les taxes, et nous avons besoin d'un nouveau mécanisme pour rechercher où les multinationales font du profit, où elles payent des impôts, afin de les empêcher de manipuler injustement le système.
Je ne m'excuse pas pour ce que j'ai pu faire pour mon pays. La commission que j'ai l'honneur de présider va lutter contre l'évasion fiscale et contre la fraude fiscale.
Nous poursuivons la banque HSBC pour complicité. Techniquement, ça peut toujours se reproduire, mais je pense que nous sommes passés dans une nouvelle période. Quand je vois le nombre de ceux qui régularisent leur situation depuis la Suisse, j'ai le sentiment que vraiment, il y a maintenant un état d'esprit différent.
Les Panama Papers vont nous donner plus d'outils en plus et une plus grande conscientisation à l'international qu'il faut réellement agir parce que ça ne sert à rien d'être un pays solitaire en train de resserrer s'il reste encore plein de paradis fiscaux.
David Cameron en 2013 à l'époque de l'affaire dite Offshore Leaks, Jean-Claude Juncker en 2014 à l'époque de LuxLeaks, Michel Sapin en 2015 se voulant intraitable suisse à SwissLeaks et puis enfin le Premier ministre canadien Justin Trudeau il y a quelques jours à propos des Panama Papers. Depuis plusieurs années déjà, hein, les affaires et autres scandales sur les paradis fiscaux se multiplient. Je disais Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks et puis désormais Panama Papers. À chaque fois, l'opinion s'insurge et les responsables politiques promettent de jeter toute leur force dans la bataille pour éradiquer ces pratiques. Dernière illustration en date, le président panaméen lui-même, Juan Carlos Varela, qui explique qu'il est disposé désormais à se plier aux critères internationaux en matière de fiscalité et que même son pays fait beaucoup d'efforts pour éradiquer l'évasion fiscale. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre réellement de ces engagements? On retrouvera dans cette émission la secrétaire d'État aux affaires étrangères de la République du Panama, Maria Luisa Navarro. Et puis, au-delà du Panama, en octobre 2015, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, dévoilait un accord qualifié d'historique sur cette lutte contre l'évasion fiscale. C'est un plan baptisé BEPS pour érosion des bases taxables et transfert de bénéfices. C'est l'aboutissement de 2 ans. D'intenses négociations, tractations diplomatiques, sera-t-il de nature à diminuer le phénomène d'évasion et d'optimisation fiscale qui coûterait chaque année, selon certaines mesures, entre 100 et 240 milliards aux États? On peut légitimement en douter, tant on a l'impression que s'il y a des efforts en la matière, il y a aussi beaucoup de frilosité, pour pas dire carrément une franche hypocrisie dans cette lutte et pour cause, au cœur de ce défi, la coopération. Et dans un monde où chaque pays défend ses intérêts et sa souveraineté, c'est parfois très difficile. On entendra donc la parole de la République du Panama à travers la voix de Maria Luisa Navarro. Et puis on ira au cœur de l'Europe aussi, dans un pays confortablement installé dans le secret bancaire, la Suisse. Pour combien de temps encore? D'ici 2018 en tout cas, l'Union Européenne et la Suisse échangeront normalement automatiquement des informations sur les comptes de leurs résidents respectifs. On en parlera tout à l'heure avec Christophe Farquet. Pour évoquer cette lutte contre les paradis fiscaux, on a invité ce matin Christian Chavagneux. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste au mensuel Alternative Économique, auteur notamment de cet ouvrage Les paradis fiscaux qui était paru à la Découverte et une BD pédagogique qui vient d'être publiée, Les aventures de la finance perdue, c'est chez Casterman. Merci d'être avec nous ce matin.
Merci à vous.
Alors, cette semaine, mercredi, le président panaméen, Juan Carlos Varela, a profité de sa visite au Japon pour annoncer que son pays allait engager une coopération avec l'OCDE. Il y a une équipe technique, normalement, qui devrait arriver dans les prochains jours au Panama, dans le but de trouver un accord pour que le pays ne soit pas inscrit sur la liste noire des paradis fiscaux. Comment est-ce que vous jugez cette annonce? Est-ce que c'est de l'ordre simplement de la communication? Est-ce que vous voyez quand même une véritable intention de collaborer?
Le Panama nous a déjà fait le coup plusieurs fois, si je puis dire. Il avait déjà annoncé qu'il allait se fondre dans le standard international qui est l'échange automatique d'informations fiscales. Dès que quelqu'un vient ouvrir un compte, une société, etc., réaliser une transaction financière au Panama, le fisc panaméen est censé transmettre l'information au fisc du pays d'origine de la personne concernée. C'est pour ça qu'il était sorti notamment de la liste française des paradis fiscaux à la fin de l'année dernière. Mais dans la pratique, les paroles n'ont pas été suivies d'actes. Et donc, on attend de voir si la pression internationale qui s'exerce sur le président panaméen va le conduire cette fois à aller jusqu'au bout.
Alors justement, cette pression, on a le ministre français des Finances, Michel Sapin, qui a signé un arrêté qui devrait ajouter formellement très bientôt le Panama sur la liste noire des paradis fiscaux, alors même qu'en 2012, vous le disiez, la France avait joué un rôle central pour le faire sortir de la liste de l'OCDE. Lors de sa conversation téléphonique avec le président du Panama, François Hollande avait encouragé son pays à répondre aux demandes d'information des autorités fiscales françaises. C'est ça qu'on lisait sur le communiqué de l'Élysée. Le président Varela n'avait pas véritablement apprécié cette insistance de la France, menaçant même de représailles diplomatiques, avant finalement peut-être d'expliquer que son pays allait privilégier le dialogue, la voie diplomatique. On voit que la pression est extrêmement forte d'un côté et de l'autre. On n'est pas franchement dans le cadre d'un dialogue apaisé qui serait quand même nécessaire pour évoquer ces questions extrêmement difficiles.
Non, on est dans le cadre d'un rapport de force très clair avec la France, mais surtout avec l'ensemble de l'Europe et l'ensemble du G20 d'un côté et le Panama de l'autre côté, qui fait valoir au-delà de son nationalisme et de sa souveraineté le fait que le fait d'ouvrir des sociétés écrans sans qu'on sache vraiment qui est bénéficiaire de cette société, il y a un grand pays qui est juste au-dessus et qui le pratique, qui s'appelle les États-Unis. Donc le Panama dit ne soyez pas hypocrites, vous G20, dans vos gros pays vous pratiquez aussi la même chose. Donc je vois pas pourquoi moi je me plierais, sauf que aujourd'hui les États-Unis font beaucoup d'efforts et d'ailleurs le président Obama et encore le fisc américain pas plus tard que samedi dernier ont annoncé des nouvelles mesures pour remettre en cause tout ce qu'il y a d'opaque dans le système fiscal de certains États américains et donc le Panama va devoir craquer.
On reviendra sur les États-Unis pour voir effectivement les efforts et peut-être les résultats en la matière. Vous dites rapport de force, moi j'ai envie de dire aussi gesticulation diplomatique, avec évidemment la crainte derrière, c'est qu'après les gesticulations diplomatique, vient le temps de l'inaction.
Non, ça va au-delà des gesticulations, me semble-t-il, parce que l'ensemble des autres paradis fiscaux se sont engagés, pour certains 2017, pour d'autres 2018, à vraiment aller dans un autre standard. Donc le Panama va devoir aller au-delà de la gesticulation.
Alors c'est ce qu'on va voir. Donc après le Luxembourg, la Suisse, le Panama se retrouve donc pour la première fois de son histoire au centre de ce scandale international. Rapidement, je le disais, les autorités panaméennes se sont empressées de désamorcer les accusations de paradis fiscal à leur encontre. Il y a quelques jours, la vice-présidente de la République, cette fois du Panama, et ministre des Affaires étrangères, Isabel de Saint-Malo de Alvarado, a publié une tribune dans Le Monde dans laquelle elle affirme que son pays est engagé dans la lutte contre l'évasion fiscale. Et bien c'est un petit peu le message aussi que veut envoyer, vous allez entendre, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Maria Luisa Navarro, qui veut faire connaître les efforts de son pays en matière de lutte contre l'évasion fiscale. On l'a jointe hier au Panama, elle est au micro de Xavier Martinet, écoutez.
Nous faisons totalement confiance à notre système. Nous travaillons à de nouvelles lois depuis des années, particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel il y a 2 ans, pour faire du Panama une juridiction où les informations sont immédiatement mises à disposition des instances et des pays qui en font la demande par les voies légales officielles. Nous avons toujours fait preuve de bonne volonté dans ce domaine et avons toujours été prêts à participer à des échanges bilatéraux d'informations du mieux possible. Bien sûr, nous avons des holdings au Panama qui proposent des services offshore, l'une d'entre elles étant le cabinet Mossack Fonseca. Mais s'il y a bien une chose qui apparaît clairement dans les informations émanant de Mossack Fonseca, c'est que 21 juridictions sont impliquées et que les activités illégales n'étaient pas traitées au Panama ni selon le droit panaméen. La plupart des sociétés qui ont fait la une des médias européens dans ces pays n'ont rien à voir avec le Panama. Certaines appartiennent à des pays membres de l'OCDE et à des pays européens. Toutes les institutions financières citées jusqu'à présent dans l'affaire des Panama Papers ne sont pas implantées et n'ont pas non plus d'activité au Panama. Ce sont des instances financières internationales qui dépendent d'autres juridictions. Nous regrettons donc vivement que pour des raisons médiatiques, on ait appelé Panama Papers, ce qui devrait s'appeler l'affaire des 25 pays, les 25 Countries Papers, agissant par le biais d'un cabinet panaméen.
Et alors, comment est-ce que vous avez réagi aux fortes pressions internationales qui se sont manifestées? Le président Varela a téléphoné à François Hollande. Il aurait menacé de mesures de rétorsion diplomatique indéterminées si le Panama était réinscrit sur la liste noire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et vous en êtes où maintenant?
À ce sujet, je crois que les déclarations de mon pays en plus haut lieu ont été très claires. Nous avons demandé avec fermeté et respect au gouvernement français de reconsidérer une décision unilatérale et nous le pensons inutile et excessive. Le Panama et la France ont depuis longtemps des relations diplomatiques, politiques et économiques classiques. Les entreprises françaises ont participé au plus grand projet d'infrastructure du pays, notamment l'agrandissement du canal de Panama, le métro et la construction de nos ponts. Et il est tout à fait incohérent d'inscrire le Panama de façon unilatérale et contraignante sur une soi-disant liste noire, alors que notre pays est clairement capable de garantir toute transparence et qu'il y travaille d'ailleurs depuis longtemps. C'est là le message adressé par le président Varela au président Hollande au cours de leurs échanges. Et nous avons rejeté en bloc les explications orales données par le ministre des Finances aux médias internationaux à cette occasion. Et nous espérons que le prochain entretien de notre ministre des Finances avec son homologue français se tiendra dans une atmosphère de dialogue et de compréhension qui conduira finalement la France à reconsidérer sa décision.
Et au sujet de la France, toujours, quand vous parlez par exemple du canal de Panama et des entreprises françaises qui y participent, est-ce que ça veut dire que vous avez menacé le gouvernement français de les exclure de ce marché ou d'autres ?
L'une des choses que nous avons dites, et nous sommes actuellement en train de revoir notre réglementation interne en matière de marché public, c'est que nous ne permettrons pas la participation aux appels d'offres à des entreprises issues de pays qui font preuve de discrimination à notre égard.
Et au-delà donc de la coopération bilatérale, depuis au moins un an, le Panama est épinglé par les institutions internationales pour son refus d'adhérer aux conventions internationales. L'Union européenne l'été dernier, en février dernier, le Panama était sorti de la liste des pays coopératifs pour l'échange automatique de données bancaires donc par l'OCDE. Et donc il y a toujours pour vous des difficultés à signer une convention internationale sur la transparence financière ?
Nous n'adopterons pas cette convention multilatérale. Nous l'avons dit clairement et nous avons tout aussi clairement expliqué à l'OCDE les raisons pour lesquelles nous ne le ferons pas. Nous avons donné des explications et elles ont été admises par le GAFI, mais aussi par le Forum mondial de l'OCDE l'an dernier, lorsque nous avons accédé à la deuxième phase de l'examen par les pairs organisé par cette instance. Tout ce que le Panama a fait a été accepté et reconnu. Ce que nous avons dit, c'est que nous continuerons de négocier avec de nombreux pays membres de l'OCDE, que nous poursuivrons les pourparlers bilatéraux en vue de négocier des accords ou des échanges d'informations selon des critères de reporting communs. Mais notre président a bien dit que pour l'instant, nous ne sommes pas disposés à adhérer à l'accord sur l'échange automatique de renseignements proposé par l'OCDE sur une base multilatérale.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer les contrôles au Panama ? Vous annoncez une commission indépendante qui rendra ses conclusions dans 6 mois. Et puis, il y a un an, quand même, vous avez mis en place le projet « Connaissez vos clients ». Est-ce que vous avez eu des résultats ?
Comme je l'ai dit, les projets et programmes mis en œuvre par le Panama pour accroître sa capacité de coopération et établir le cadre d'un système financier et d'entreprise plus transparent étaient déjà en place avant l'affaire des Panama Papers. Dès l'an dernier, nous avons adopté de nouvelles lois pour réglementer les établissements non réglementés jusqu'alors, et notamment les prestataires de services juridiques et aux entreprises dans notre pays. Nous avons également agi pour que le Panama soit sorti de la liste du GAFI. Et le projet « Connaissez vos clients » existe depuis un certain temps déjà. Nous continuerons d'aller dans ce sens et de concevoir une législation locale, tout en donnant aux législateurs davantage de pouvoir pour améliorer notre système financier et d'entreprise, et le rendre plus compétitif, plus transparent et conforme aux normes internationales.
Et dans ce contexte de pression internationale intense, est-ce que vous ne craignez pas que l'image du Panama puisse grandement pâtir cette année 2016 ? On sait déjà que d'ici le G20 de juillet, 3 pays, le Liban, Vanuatu et le Panama, risquent d'être de nouveau exclus de la liste des pays coopératifs en ce qui concerne l'échange automatique de données.
Nous comptons sur les États membres de l'OCDE, avec lesquels le Panama a des relations diplomatiques étroites et historiques, pour expliquer au secrétariat ce qu'est le Panama, quel type de relations politiques et commerciales nous avons toujours entretenues, et à quel point il serait illogique pour ces 34 pays de l'OCDE de permettre à une organisation d'inscrire le Panama sur une liste de pays non coopératifs Étant donné que nous sommes déjà en mesure, avec un grand nombre de ces pays, d'échanger des informations directement et sur une base bilatérale, voire dans certains cas de façon automatique.
Et concernant justement les services financiers, on dit généralement que 80% du PIB du Panama provient des services, canaux et services bancaires. Alors est-ce que vous pouvez dire combien proviennent directement de ces systèmes financiers et juridiques particuliers au Panama ?
Très peu, vraiment très peu. Et il est d'ailleurs très dommage de voir ce que la presse a titré ces derniers jours et les sommes d'argent mentionnées. Ces sommes n'ont jamais circulé dans notre système et le Panama n'a jamais organisé d'évasion fiscale. Dans quelques cas, des sociétés panaméennes ont été utilisées, mais nous sommes fiers de pouvoir dire que les entreprises panaméennes répondent en toute légalité aux besoins de nombreuses multinationales depuis longtemps. Certaines sociétés de notre pays sont cotées sur les marchés boursiers les plus prestigieux et de nombreuses holdings à travers le monde font exactement la même chose que les entreprises panaméennes. L'utilisation de véhicules juridiques à des fins illicites et d'évasion fiscale est quelque chose que nous continuerons de combattre et nous continuerons de tout faire pour que ces mécanismes soient le plus difficile possible à mettre en place. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas un phénomène réservé au Panama. Il touche tous les pays qui offrent ces services, y compris la plupart des pays européens.
Et alors, si le Panama n'est pas ce qu'on appelle un paradis fiscal, peut-être que vous comprenez mieux la qualification de refuge fiscal.
Comme je l'ai déjà dit, refuge fiscal, c'est aussi très relatif, car dans la plupart des cas, le Panama, en tant que juridiction, n'a pas été utilisé. Bien que le Panama ne soit que l'une des 21 juridictions impliquées dans l'affaire des Panama Papers, nous nous engageons à être l'un des pays les plus transparents et les plus acharnés à défendre la transparence internationale. Et nous continuerons de légiférer et de renforcer le pouvoir du législateur pour garantir cette transparence.
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
Maria Luisa Navarro, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la République du Panama, au micro de Xavier Martinet. Christian Chavagneux, réaction sur les propos de la secrétaire d'État. Beaucoup de choses à dire. Une chose très importante qu'on retient, c'est que clairement pour le Panama, il n'est pas question d'envisager un quelconque accord multilatéral et l'échange automatique d'informations, de données, mais on voit qu'il est disposé, disons, à signer des accords bilatéraux.
On verra si le Panama pourra tenir longtemps sa position de refuser tout accord dans le cadre de l'OCDE. Il faut bien comprendre le rôle précis que joue le Panama dans les circuits de la finance opaque au niveau international. Que vous soyez un fraudeur fiscal, un mafioso, que vous soyez quelqu'un qui veut détourner l'argent public, vous courez après trois objectifs en même temps. Vous voulez cacher l'argent, vous voulez pas vous faire prendre et vous voulez faire fructifier l'argent. De ce point de vue, le Panama, c'est le point 2. C'est comment mettre de l'opacité pour éviter de vous faire prendre.
C'est tout l'inverse de ce que nous dit Maria Luisa Navarro. Elle nous dit notre pays est capable de garantir toute transparence.
Alors, on voit que ce rôle d'intermédiaire, il démarre d'abord par... Il faut un chef de chantier pour organiser l'opacité. Le chef de chantier, on l'a vu avec les Panama Papers... Là où la panaméenne, la ministre panaméenne a raison, c'est que c'est plutôt en Europe. C'est des grandes banques internationales, y compris la Société Générale en France qui a été sous le feu de la critique. Et ce chef de chantier, il doit trouver tous ceux qui vont pouvoir permettre de cacher l'argent et de le faire fructifier. Des comptables, des experts financiers et des spécialistes, des avocats qui vont créer des sociétés écrans pour ajouter couche sur couche d'opacité. C'est là que le Panama intervient. Je m'appuie là, par exemple, pour donner un exemple vraiment concret, sur le cas de Jérôme Cahuzac qui a bien été décrit par Anne Michel, notre confrère du Monde. On dit Jérôme Cahuzac qu'il avait de l'argent en Suisse et puis quand il a senti que ça sentait mauvais, il l'a transféré à Singapour et puis on l'a attrapé à Singapour. Non, quand vous regardez le cas de Jérôme Cahuzac, le compte qu'il avait à Singapour était détenu par une société panaméenne qui était elle-même détenue par une société des Seychelles dont le principal actionnaire était une autre entité coquille vide des Seychelles et dont le directeur était encore une autre société à cheval entre les Seychelles et le Panama. Donc si Mediapart n'avait pas eu accès directement au compte d'origine en Suisse, il aurait fallu traverser toutes ces quatre ou cinq sociétés écrans pour remonter.
Ça peut être très difficile.
Voilà, ouais. C'est très long. Et donc quand vous êtes une administration fiscale ou un juge, ça vous prend trop de temps. Et le Panama joue clairement ce jeu d'offrir des services d'opacité au niveau mondial.
Et quand Maria Luisa Navarro nous dit que finalement les avantages fiscaux du Panama ne constitue pas la manne financière décrite par les médias internationaux depuis plusieurs jours.
C'est sûr que le Panama est un tout petit centre financier international. C'est à peine 50 milliards de dollars qui rentrent dans les banques du Panama et qui viennent de l'étranger. C'est vraiment ridicule par rapport aux îles Caïmans qui doivent être à plus de 1000 ou 2000 milliards. C'est vraiment un tout petit paradis fiscal. Il faut savoir que l'argent n'est pas dans les paradis fiscaux. L'argent, il reste, il est placé en France, il est placé à New York, à Londres, à Tokyo. Le paradis fiscal, l'essence même du paradis fiscal, c'est d'offrir la possibilité de découpler le lieu où vous touchez de l'argent et le lieu où le droit de propriété sur cet argent va être enregistré et donc contrôlé et taxé, et plutôt peu contrôlé et peu taxé. C'est ça l'essence même.
Christian Chavagneux, l'un des problèmes qui rend peut-être si lent, si difficile la lutte contre les paradis fiscaux, et on va le voir pendant toute cette émission ensemble, c'est que finalement tout le monde n'a pas les mêmes critères pour définir ce qu'est un paradis fiscal. Tout le monde n'a pas les mêmes critères pour définir comment on va élaborer, établir des listes noires. Or, depuis des années, finalement, on se concentre beaucoup, précisément sur les accords bilatéraux qu'évoquait à l'instant la secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la République du Panama, en laissant un peu de côté cette question de la convergence des critères. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de stratégie et enfin se concentrer sur la convergence des critères ?
Moi, je suis pas du tout un partisan des listes. Pourquoi ? Parce que la pression diplomatique est toujours extrêmement forte. On en sort aussi vite qu'on y rentre, pour des raisons diplomatiques et pas pour des raisons de respect de critères ou pas. Et lorsque l'Union européenne, par exemple, fait une liste des paradis fiscaux, il est impossible d'avoir un pays européen dans la liste européenne des paradis fiscaux. Donc vous mettez tout de suite de côté l'Irlande, vous mettez tout de suite de côté le Luxembourg, qui sont les principaux problèmes qui sont posés à nous, Français, dans l'utilisation des paradis fiscaux.
Donc quand, par exemple, Pierre Moscovici nous annonce qu'il veut mettre en chantier une véritable liste noire, je le cite, européenne, commune, des paradis fiscaux, et ce, dans les six mois, nous devons être en mesure d'avoir établi les critères pour l'établissement d'une telle liste. Vous y croyez pas ?
Il va y avoir beaucoup de négociations diplomatiques. Les Chinois vont dire non, attendez, vous pouvez pas mettre tel critère parce que vous allez mettre Hong Kong. Les Anglais vont dire non parce que vous allez mettre Jersey, les Caïmans, et moi je veux pas. Bref, ça va être un gros marchandage diplomatique.
Et y compris au sein de l'Union européenne, on n'est pas capable. Parce que le ministre allemand des Finances, visiblement, il est favorable à cette option. Il dit, nous avons besoin d'une uniformisation des listes noires. Il est pas comme vous. Lui, il est pour les listes noires.
Oui, très bien. Écoutez, moi je veux bien lui donner quitus. Et si dans six mois, il nous sort une liste dans laquelle il y a l'Irlande et le Luxembourg, alors je dirais que le travail a été bien fait, mais je crains que ce ne soit pas le cas.
Vous pensez qu'on ne va pas y arriver ?
Je pense qu'il va y avoir trop de négociations diplomatiques et qu'au sein des pays de l'Union, la règle, en tout cas jusqu'à présent, qui a prévalu, c'est de dire aucun pays de l'Union ne peut être dans une liste noire des paradis fiscaux. Or, encore une fois, pour nous, on le voit avec les Panama Papers, l'ensemble des intermédiaires, ils sont situés au Luxembourg. Pour nous, le problème, ce n'est pas le Panama, c'est le Luxembourg, c'est l'Irlande et en partie Londres.
On reviendra tout à l'heure sur la liste noire, parce que tout le monde a sa petite liste noire, l'Union européenne, l'OCDE, etc. etc. Mais restons sur l'Europe. La Commission européenne a fait une proposition à propos des multinationales qu'elle voudrait obliger à publier régulièrement leurs profits, leurs impôts payés pays par pays. Une fois encore, Christian Chavagneux, mais peut-être que vous allez me contredire, on se demande à quoi ça pourrait servir. Quand bien même on se rendrait compte que finalement ces multinationales ne payent pas les impôts qu'elles devraient aux États, ce qui n'est pas véritablement un scoop, vous en savez quelque chose, rien ne les obligerait ensuite à le faire.
Oui, mais ça permet quand même c'est un pas vraiment intéressant. Depuis 2013, le Parlement européen a voté le fait que pour les banques européennes, elles doivent donner dans l'ensemble de leur pays d'implantation, en gros 4 critères, c'est un peu plus mais 4 critères importants, le chiffre d'affaires qu'elles réalisent dans chaque pays où elles sont implantées, le chiffre d'affaires qu'elles réalisent, le nombre de personnes qu'elles emploient, les profits qu'elles réalisent et les impôts qu'elles paient. Et on a eu donc à l'été dernier, l'été 2015, l'ensemble de ces données et on s'aperçoit, les ONG ont fait un travail remarquable de décryptage de ces informations et on s'aperçoit que vous avez des filiales de grandes banques européennes, y compris françaises et notamment françaises, vous avez beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de profits, aucun employé par exemple. Comment c'est possible ça ? Ben, c'est possible parce qu'il y a des transferts de bénéfices qui sont organisés de manière artificielle.
Mais donc, ça, on le sait depuis longtemps, Christian Chavagneux.
Oui, mais là, on peut mettre quantitativement...
En quoi ça les obligerait à payer ?
On peut mettre quantitativement des choses sur la table. Souvent, elles jouent le rôle d'intermédiaire. Donc, c'est pas tellement pour faire de l'évasion fiscale pour elles-mêmes. C'est pour aider leurs clients à faire de l'évasion fiscale. Ça permet de mettre des choses sur la table et de faire pression sur le gouvernement pour leur dire « Regardez, maintenant, vous voyez bien que ce qu'on supposait est réel. » On a une photo vraiment importante. Et le fait d'élargir cette contrainte de comptabilité pays par pays à l'ensemble des multinationales est une bonne chose. Sauf que la Commission européenne a été à canner en cours de route, si je puis dire, puisqu'elle a dit aux grandes multinationales, celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros, eh bien, vous allez nous donner pays par pays, mais uniquement pour les pays européens, pour les paradis fiscaux qu'on mettra dans la fameuse liste noire que vous avez citée, et pour le reste, ce sera un agrégat pour le reste du monde. Ce qui fait que on pourra pas distinguer entre les Caïmans, la Suisse et Singapour si ces pays ne sont pas considérés comme des paradis fiscaux.
Alors il y a la pression sur les multinationales, et puis il y a aussi éventuellement la pression sur les banques. Le ministre allemand, une fois encore, des Finances a dit il y a quelques jours, Wolfgang Schäuble, qu'il fallait appliquer des sanctions contre les banques qui encouragent l'optimisation fiscale. Ou ça concrètement, c'est possible?
Oui, c'est tout à fait possible. Je dirais enfin, il faut dire que on le fait pas. C'est un des gros trous de ce que fait l'OCDE aujourd'hui pour lutter contre l'optimisation fiscale agressive, c'est de ne pas s'attaquer directement à ces intermédiaires qui peuvent être des banques, mais encore une fois, des cabinets d'avocats fiscalistes, etc., des cabinets d'audit et de conseils comptables. C'est tout cela contre lesquels il faut agir si on veut lutter sérieusement contre les paradis fiscaux. On pourrait imaginer que des agences de notation nous les notent. Hein, si vous n'avez jamais été pris, triple A. Si vous avez été pris une fois, double A. Si vous avez été pris plusieurs fois, un seul A. Et au bout d'un moment, vous ne pourrez pas, en tant qu'entreprise cotée en bourse, par exemple, ou en tant que collectivité locale, vous adresser à ce type d'intermédiaire si vous voulez faire des affaires parce qu'il est mal coté. Si on pense aussi que les banques nous posent un réel problème, parce que non seulement dans les paradis fiscaux, elles permettent d'échapper à l'impôt pour elles-mêmes, pour leurs clients, mais aussi ce sont des endroits où elles prennent des risques de manière très opaque, alors si les banques posent un problème de stabilité financière à cause des paradis fiscaux, on leur met des contraintes, comme on leur met des contraintes par ailleurs lorsqu'elles posent des soucis en termes de stabilité financière.
Alors on s'attaque aux banques, on s'attaque aux multinationales, on s'attaque aux paradis fiscaux, et si finalement tout ça n'avait aucun effet, si finalement le problème était ailleurs, je vais prendre un exemple, la Grande-Bretagne, elle a encore diminué très récemment l'imposition des profits des grandes entreprises, 17%. Comment agir dans un tel contexte de concurrence fiscale? Est-ce que finalement, le vrai problème, il n'est pas là? Pour régler les choses, il faudrait aller vers plus d'harmonie fiscale. Restons sur l'Union européenne.
L'Union européenne est une des zones où la concurrence fiscale est la plus exacerbée entre pays proches. Mais là, on n'est pas du tout dans la concurrence fiscale. Rappelez-vous cette magnifique vidéo que vous trouverez sur Internet. Où vous avez un des directeurs financiers de Apple qui est interrogé par le Sénat américain. On lui dit « Monsieur, j'ai la preuve que vous avez signé un contrat fiscal avec la République d'Irlande qui vous permet d'être taxé à 2%. » Le taux d'impôt sur les sociétés en Irlande, c'est 12,5%. Donc, c'est pas 12,5%, c'est 2%. Est-ce vrai? Il commence à tergiverser. On lui repose la question. La réponse, c'est oui ou non. Et vous avez ce gros monsieur très imposant qui fait yes, comme ça, avec une toute petite voix de rien du tout. On n'est plus dans les problèmes de concurrence fiscale. On est dans les problèmes d'opacité financière, de deals secrets entre certains gouvernements qui volent de la base fiscale à d'autres gouvernements européens en proposant aux multinationales de très peu les taxer. On parle de 2% en Irlande et non pas de 12,5%. Et d'ailleurs, on attend que la Commission européenne mette une amende sévère à Apple et on parle de 7 à 8 milliards de dollars. Donc c'est vraiment quelque chose d'important.
Encore peut-être un mot sur l'Europe avant de parler de l'OCDE. Depuis 2011, il y a une directive européenne qui existe sur la coopération administrative dans le domaine fiscal. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les administrations coopèrent? Est-ce que ça permet de lutter contre l'évasion fiscale?
D'après Bercy, oui. Ça a beaucoup amélioré l'échange d'informations. Maintenant, lorsque Bercy demande des informations à la Suisse ou à d'autres pays, un, non seulement les pays répondent, mais deux, en plus, ils répondent de manière assez rapide et en donnant des informations supplémentaires. Donc, si on en croit le ministère des Finances, c'est plus efficace.
On en croit un certain nombre d'observateurs. Il y a un certain nombre de pays qui traînent un petit peu encore des pieds. Je parlais de la Grande-Bretagne, c'est le cas. Je crois que les Allemands ne sont pas très très coopératifs en termes d'échange automatique de données.
Ah, pourtant, les Allemands sont considérés comme... Enfin, le fisc allemand, en tout cas, est considéré comme une des administrations les plus agressives pour vraiment lutter contre ce genre de pratiques. Et ce n'est pas tout à fait les échos que j'ai. J'ai D'accord. plus d'inquiétude du côté du Luxembourg, par exemple.
Bon, on va parler à présent de l'Organisation de coopération de développement économique, l'OCDE. Écoutez Pascal Saint-Amand, qui est le directeur, justement, du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE.
La crise financière a été une sorte de signal d'alarme pour mettre un terme aux paradis fiscaux. Cependant, l'évasion fiscale demeure légale. En revanche, pour la taxation des multinationales, nous avons un plan qui a obtenu le soutien de 44 pays, c'est-à-dire tous les membres du G20, l'ensemble des pays de l'OCDE et un certain nombre de pays en développement. Tous ont uni leurs forces pour changer la législation. Ainsi, nous pouvons éliminer toute double taxation, faciliter l'investissement, mais nous évitons aussi une double non-taxation, autrement dit, lorsque vous placez vos profits quelque part où il n'y a pas de taxes, mais où il n'y a pas d'activité non plus. Cela est terminé. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est dans l'intérêt des sociétés de changer le système. Elles ont besoin de payer des taxes. Nous avons collaboré ensemble. Les entreprises ont fourni 10 000 pages de commentaires à l'ensemble des 15 mesures que nous proposons. Elles n'ont pas été mises de côté. Maintenant, les sociétés doivent appliquer les règles. Le fait que 90%, je dis bien 90% des représentants de l'économie mondiale s'entendent sur un paquet de mesures est un signal fort.
Voilà, un signal fort. On a même parlé d'un accord historique, octobre 2015. L'OCDE annonce donc ce texte avec 62 pays pour l'adoption de ce plan dit BEPS pour Base Erosion and Profit Shifting, qu'on pourrait traduire par érosion des bases taxables et transfert de bénéfices. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, peut-être Christian Chavagneux, la nature exacte de ce texte, de cet accord? Comment est-ce que vous le jugez? Est-ce que c'est une véritable avancée?
C'est la première fois depuis un siècle, depuis les années 20, qu'on essaye d'établir une règle de taxation dans une économie mondialisée. Donc oui, c'est un pas extrêmement important. Maintenant, Pascal Saint-Amand dit « that's over ». Non, c'est pas encore over complètement. Il y a des trous dans la raquette d'une part. D'autre part, on sait très bien que les multinationales essaient de rebâtir de l'opacité à côté de BEPS. Comment? Vous regardez certaines grandes multinationales qui, avant BEPS, déclaraient 8-10 filiales dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'une ou deux. Est-ce que l'optimisation a complètement disparu? Non, je pense qu'elles essaient de rebâtir de l'opacité. Elles comptent beaucoup sur la victoire d'un républicain aux États-Unis pour essayer de mettre complètement à l'eau ce projet BEPS. Parce que si les États-Unis n'avaient pas été moteurs sur le projet, jamais ça aurait pu se faire. Et si les États-Unis flanchent, si le Congrès américain flanche, à ce moment-là, ça remettrait tout en l'air. Et puis, il y a une question que les États n'ont toujours pas réglée. Admettons que Google, qui cache une bonne partie de ses profits aux Bermudes, soit vraiment pris par ce projet de l'OCDE. Ça veut dire qu'il y a de la base fiscale qui va revenir. Qui va récupérer cette base fiscale? Les Français disent « Google a de l'activité chez nous, ça doit revenir chez nous ». Les Américains disent « Vous plaisantez ou quoi ?» Google, c'est un algorithme pensé par des ingénieurs américains. Toute la valeur ajoutée de cette entreprise, elle est aux États-Unis. La base fiscale qui revient, elle va aux États-Unis, pas en France.
Donc ça, on ne s'est pas mis d'accord là-dessus. Fameux trous dans la raquette que vous évoquez.
C'est un des trous dans la raquette.
C'est quand même un trou énorme. C'est un gouffre.
Alors, c'est un gouffre de savoir qui va récupérer la manne. Mais si on récupère la manne, c'est déjà pas mal. On aura déjà avancé.
Enfin, si on s'est pas mis d'accord sur comment on partage le gâteau ensuite...
Ça fait partie des négos de 2016. Pascal Saint-Amand, notamment, nous a dit que la négociation aboutirait cette année. Elle devait aboutir l'année dernière en octobre. Elle n'a pas pu aboutir. On espère que cette année, on ira jusqu'au bout.
Et on a une idée de ce que pourrait être justement ce principe de partage de ce nouveau gâteau qui réapparaîtrait comme par magie?
Oui, il y a des... Alors, c'est pas par magie. Ce serait pas vraiment par le travail qui est fait au niveau international. On a une idée, l'OCDE nous a dit c'est entre 4 et 10%, l'estimation officielle, entre 4 et 10% de l'impôt sur les sociétés ne serait pas payé par les multinationales. Et l'info officieuse que moi j'avais au sein de l'OCDE, qui datait de quelques mois, était plutôt que les premiers résultats montraient que 25%, un quart de l'impôt sur les sociétés ne serait pas payé. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y a des principes qu'on peut très bien établir. On établit des critères qui sont liés à l'activité réelle des entreprises. Est-ce que vous avez des gens employés? Est-ce que vous avez du capital? Est-ce que vous avez des usines? Vous avez du business. L'idée, vraiment, c'est celle-là. Relier l'imposition là où l'activité réelle se passe et non pas...
Enfin, ça, c'est peut-être l'idée des Européens et moins l'idée des Américains.
Non, c'est vraiment l'idée générale. D'accord. Sauf qu'il faut choisir, en fonction des critères que vous choisissez, vous redonnez un petit peu plus de base fiscale aux États-Unis, un petit peu plus à la France. C'est pareil pour nous. On parle des Américains de Google, mais nous, on a LVMH en Chine, par exemple. Avec les nouveaux critères, il y aurait plus d'impôts, LVMH serait plus taxé en Chine et moins en France. Donc, nous, on veut pas non plus. C'est un jeu de coopération dans lequel chacun défend ses intérêts nationaux. Il faut trouver un compromis.
Et alors revenons quand même sur ces fameuses listes noires, parce que l'OCDE a aussi sa liste noire, on le sait, on en a beaucoup parlé depuis l'explosion de cette affaire. On a l'impression quand même que cette liste noire de l'OCDE, elle n'est qu'un pur outil de communication qui n'a d'abord aucun effet évidemment, mais surtout que c'est juste là pour communiquer. On va quand même rappeler que le Liban ne respecte aucun des trois critères en matière de coopération fiscale, que sont l'échange à la demande, la convention multilatérale, l'échange automatique de données, et pourtant le Liban n'est pas sur la liste de l'OCDE.
Est-ce que vous êtes sûr de ça?
Il me semble
que le Liban, justement, y était, avec le Vanuatu, avec le Panama.
Non, je crois qu'il est question de l'y remettre, mais qu'il n'y est pas.
En tout cas, l'OCDE ne joue pas du tout sur l'idée qu'il y a une liste ou pas une liste. Ils sont plutôt dans un, non pas dans le rapport de force, mais dans la recherche de compromis. Vous savez, vous prenez les engagements d'un pays, et puis vous prenez un pays de l'OCDE, un peu riche, et un autre paradis fiscal. Et vous les envoyez, ces deux personnes, contrôler ce qui se passe vraiment dans les pays. Et là, on s'aperçoit que pour l'échange d'informations à la demande, le standard d'avant, l'échange automatique d'informations, le standard à partir de 2017-2018, il y a des contrôles qui s'en fait. Et moi, ce qui me rassure quelque part, c'est que dans dans tous les projets de l'OCDE, il y a marqué aussi bien pour les multinationales que pour les particuliers. En 2020, on se remet tous autour de la table et on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, on essaie de boucher les trous. C'est la première fois que non seulement l'OCDE met un plan sur le devant de la table, mais en plus dit, oui, il y aura sûrement des difficultés. Et donc, dans quelques années, quand tout ça sera mis en place, eh ben, on va remettre le métier sur l'ouvrage et on va essayer de voir si on ne peut pas améliorer.
Mais une fois encore, je reviens sur cette question des listes. On a du mal à comprendre comment ces listes peuvent être aussi différentes d'une entité à l'autre, de l'Union européenne à l'OCDE, en passant par le GAFI, le groupe d'action financière, qui est, je rappelle, cet organisme intergouvernemental qui a été créé à la fin des années 80. Par exemple, il y a quelques mois, deux mois justement, avant l'affaire des Panama Papers, le ministre de l'économie du Panama avait fêté comme un véritable triomphe la sortie de son pays de la liste grise du GAFI, donc le groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux. Comment comprendre que le GAFI considère que finalement le Panama va dans le bon sens, alors que quand même la majorité des observateurs, dont vous, Christian Chavagneux, nous expliquent qu'ils sont très loin de répondre aux critères de transparence?
Ça vous montre bien que les listes noires ne servent absolument à rien, que ce n'est pas un outil fiable, parce que la diplomatie, les rapports de force, les rapports d'intérêt économique jouent trop sur la définition des critères et sur le fait de sortir ou pas un pays de la liste. Et donc moi, je n'ai jamais été un partisan de la politique des listes.
Mais alors quoi, quand la Commission européenne nous explique qu'elle va établir une nouvelle liste noire d'ici 6 mois et que, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, on se fiche de notre tête?
Oui, enfin, je pense que ce n'est pas l'outil principal. Il ne faut pas dire que la Commission européenne ne fait rien, mais cet outil-là ne me semble pas l'outil le plus efficace pour lutter contre les paradis
fiscaux. Elle en fait des choses, hein, l'Union européenne. Il y a quelques jours, le Parlement européen a fait voter une loi sur la protection du secret des affaires. Très large majorité, 77%. C'est un texte qui contraint désormais les États membres à prendre des dispositions dans les 2 ans pour instaurer des amendes pour ceux qui enfreindraient ce secret des affaires. Et dans le cas, en l'occurrence, on en a parlé déjà lundi, dans le cas des Panama Papers, la divulgation de ces informations, elle serait tombée sous le coup de la loi. Sauf si les journalistes avaient, comme on le disait tout à l'heure, enquêté et prouvé que les personnes concernées avaient effectivement commis un acte de dissimulation auprès du fisc de leur pays. Ce qui peut s'avérer, vous nous l'avez dit, extrêmement difficile et chronophage. Voilà ce que fait l'Europe. C'est quand même un très mauvais signal lorsqu'on s'affiche comme ça en première ligne dans la lutte contre les paradis fiscaux. J'explique que c'est une nouvelle ère qui est arrivée. Enfin,
ajoutez à cela le fait qu'Antoine Deltour, celui qui a révélé, l'un des deux Français qui a révélé le LuxLeaks et qui sert l'intérêt général en permettant aux États de s'apercevoir de ces pratiques et nommément, eh bien, n'aurait pas du tout été protégé par cette nouvelle loi, pas plus que par les propositions de la loi Sapin 2, d'ailleurs, qui sont un petit peu déjà la transcription au niveau français de ce qui se passe au niveau européen. Très mauvais signal, parce que, comme l'a dit Pascal Saint-Amand, non seulement le G20 s'est mis et la crise financière a forcé le G20 à agir, mais la société civile et les ONG, dont le niveau technique a considérablement monté. Moi, j'ai écrit les premiers papiers sur le sujet en 99. On rencontrait personne dans les ONG qui était au courant de ce qui se passait. Aujourd'hui, le niveau technique est remarquable, très puissant. Les lanceurs d'alerte et la presse jouent un rôle de pression politique très fort.
Antoine Deltour, justement, à l'origine de LuxLeaks, son procès va commencer dans les quelques jours. Vous pensez que la justice sera plus clémente, que là, véritablement, on va envoyer le bon signal, vous y croyez?
Non, j'y crois pas du tout. Malheureusement, les peines de prison, les amendes, ça me dérange pas trop. Il pourra passer à côté. Sauf que s'il a une peine, alors ce sera inscrit sur son casier judiciaire. Il faut rappeler qu'Antoine Deltour, aujourd'hui, c'est simplement un fonctionnaire français qui a retrouvé du travail en passant les concours de la fonction publique. Et que malheureusement, s'il a une condamnation inscrite sur son casier judiciaire, il pourrait perdre son travail alors qu'il a fait œuvre de salubrité publique.
Encore un mot, Christian Chavagneux, sur les États-Unis, et puis ensuite on va passer du côté de la Suisse avec notre nouvel invité Christophe Farquet, qui est par téléphone avec nous depuis Genève. On sait qu'aux États-Unis, un certain nombre d'États qui sont considérés comme des paradis fiscaux, c'est le cas du Delaware par exemple. Régulièrement, on a des responsables américains qui dénoncent ces pratiques d'évasion fiscale. On a diffusé cette semaine un extrait de Hillary Clinton en pleine campagne qui dénonçait ces pratiques à la suite de cette affaire des Panama Papers. On a aussi effectivement l'administration Obama qui récemment annonce ce plan de lutte contre l'évasion fiscale. Et en même temps, on sait parfaitement qu'il y a une véritable hypocrisie derrière tout ça, parce que la priorité pour eux, ça reste avant tout, et d'une certaine manière on peut le comprendre, mais de défendre la compétitivité des entreprises américaines. Est-ce qu'on peut raisonnablement attendre quelque chose des avancées des États-Unis?
Écoutez, en tout cas,
vous avez l'air d'y croire, vous.
Oui, ce qui a été annoncé par le fisc américain le week-end dernier est vraiment important. Il faudra voir le détail des normes, bien sûr, hein, mais sur le principe, ce qui a été annoncé, c'est-à-dire ne plus permettre à n'importe quelle société américaine ou étrangère d'avoir des sociétés complètement anonymes dans le cadre du Delaware ou du Nevada ou du Wyoming, ça va quand même vraiment dans le bon sens. Encore une fois, sur le principe, ça va dans le bon sens. Attendons les détails techniques pour voir s'il n'y a pas quelques trous dans la raquette.
Enfin, de trous dans la raquette, Christian Chavagneux, si je ne m'abuse, il y en a par exemple un gros trou dans la raquette, c'est que je crois que les États-Unis refusent catégoriquement l'échange automatique de données.
Non, pas catégoriquement. Ils ont dit que pour l'instant, ils n'y étaient pas prêts, qu'ils y viendraient d'ici quelques temps.
C'est ça, ils le font avec personne, donc ils refusent pour l'instant.
Non, ils le font de manière bilatérale. Pour l'instant, ils sont comme le Panama, ils refusent de le faire de manière multilatérale parce qu'en fait, ils ne veulent pas donner d'informations à certains gouvernements dont ils pensent qu'ils sont dirigés par des gens à qui ils ne peuvent pas avoir confiance. Mais ils n'ont pas, ce n'est pas un non ferme et définitif, ils échangent de manière bilatérale et ils ont dit que d'ici quelques temps, on ne sait pas quand, ils le feraient de manière multilatérale, mais c'est vrai que ça envoie un très mauvais signe.
Mais pour l'instant, ils veulent pas le faire. D'ailleurs, quelques jours, le ministre allemand de l'économie a proposé un plan d'action avec, je le cite, un accord au niveau du G20 sur la création d'une liste noire, encore la fameuse liste noire, permettant d'identifier les juridictions non coopératives au plan fiscal et de leur appliquer des contre-mesures coordonnées entre les différents États. Alors là, ça va être intéressant parce qu'on voit quand même assez mal les autres pays, je ne vous cache pas, forcer les États-Unis à signer un accord et puis, le cas échéant, prendre des mesures à l'égard des États-Unis. Là, franchement, c'est carrément de la fiction, là.
Ah oui, non, on ne prendra pas des contre-mesures vis-à-vis des États-Unis, ni vis-à-vis de Londres. Par contre, on peut quand même essayer de mettre au pas les paradis fiscaux qui sont liés à la couronne britannique. Et là, on a besoin de David Cameron pour qu'il force notamment l'ensemble des anciens territoires qui dépendent de la couronne britannique, qui sont les Caïmans, les Bahamas, les Bermudes, enfin Singapour, enfin Hong Kong, pardon, tout ça, à tenir des registres publics de bénéficiaires réels des entreprises. Et ça, ça permet de lutter contre aussi le Panama Papers.
Bon, on parle aujourd'hui des Panama Papers, mais il y a quelques mois, on parlait de SwissLeaks, vaste scandale de fraude fiscale, de blanchiment d'argent. C'était à peu près l'année dernière, un peu plus d'un an, février 2015.
J'aimerais formuler des excuses de ma part et de celle de Douglas pour les événements inacceptables qui ont eu lieu dans notre banque privée en Suisse au milieu des années 2000 et qui sont clairement des excuses que nous souhaitons faire à tous, nos clients, nos actionnaires et au grand public. C'était clairement inacceptable.
Pour être bien clair, de quoi vous excusez-vous ?
Le manque de contrôle et des pratiques avec lesquelles, avec le recul, nous ne serions pas du tout à l'aise si elles avaient lieu aujourd'hui. Et cela a nui à la réputation d'HSBC.
Voilà, plat des excuses hein, des dirigeants de la banque HSBC devant les parlementaires britanniques pour ces pratiques inacceptables de leur filiale suisse accusée d'avoir aidé des clients à échapper à l'impôt. On va prendre la direction de la Suisse justement pour retrouver Christophe Farquet. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes un spécialiste de la finance offshore et de l'évasion fiscale, vous êtes chercheur à l'Université de Genève. Alors, depuis tout ça, eh bien, la Suisse a accepté des choses très importantes, et notamment le transfert automatique d'informations sur les actifs financiers avec un certain nombre de partenaires à partir de 2018, avec l'adoption de l'EAR, la Convention sur l'assistance administrative. Un certain nombre de pays vont pouvoir échanger automatiquement des renseignements relatifs aux comptes financiers. Alors, il y a l'Union européenne, mais il y a aussi d'autres pays, l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, l'Islande, le Japon, puis je dois en oublier quelques-uns, mais c'est une étape très importante vers plus de transparence. Ça ne veut quand même pas dire que la Suisse va cesser d'être un paradis fiscal, Christophe Farquet.
Alors écoutez, c'est une question extrêmement difficile à répondre, parce qu'effectivement, tous ces accords... D'abord, je vous entends très mal, mais je vais essayer tout de même de parler. Tous ces accords ne sont pas encore vraiment en vigueur, donc ça sera dans, disons, les 10 ans prochains, en fonction des pratiques administratives, qu'on verra à quel point ces accords auront des conséquences sur les pratiques offshore des banques suisses. Donc pour l'instant, c'est très difficile à répondre à cette question. C'est sûr qu'au niveau du droit international, il y a eu un changement fondamental durant la crise actuelle, en fait depuis 2009, avec d'abord acceptation d'échanges de renseignements fiscaux sur les comptes bancaires pour évasion fiscale sur demande, et puis ensuite, progressivement, dès 2013, acceptation des normes d'échange automatique d'informations par l'administration fiscale suisse. Et ça, c'est vrai que c'est un changement qui est assez radical par rapport à tout ce qu'a fait le gouvernement et l'administration fédérale durant tout le XXe siècle, c'est-à-dire une politique d'obstruction dans les instances multilatérales et dans les négociations bilatérales contre les accords d'échange de renseignements fiscaux pour lutter contre l'évasion fiscale.
On va voir justement, parce qu'effectivement vous êtes historien, on va voir les différentes stratégies qui ont été déployées pour protéger, j'allais dire, le paradis fiscal qu'est la Suisse. Mais quand même, j'espère que vous m'entendez mieux, Christophe Farquet, mais qu'est-ce qui, de la Suisse, a permis de trouver cet accord ? Est-ce que c'est la pression des opinions lors des différentes affaires, SwissLeaks, LuxLeaks, et puis aujourd'hui Panama Papers, ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a d'autres raisons peut-être moins apparentes ? On a beaucoup dit que les sanctions prises ou promises à l'égard des banques suisses menant des activités à l'étranger, et notamment du côté des États-Unis, auraient pesé dans la balance.
Alors, ce qui était déterminant dans le changement de politique en 2009 du gouvernement suisse, c'est clairement la politique américaine. C'est-à-dire, effectivement, avec possibilité de sanctions très lourdes contre UBS, donc la plus grande banque suisse, également la plus grande banque suisse pour la gestion de fortune internationale. Et c'est ça qui a été déterminant, bien plus que les affaires dans le changement de politique suisse, et bien plus que les pressions internes à la Suisse, qui sont restées au fait relativement faibles. Il y avait un très grand consensus qui allait presque, enfin, même du côté de la gauche politique en Suisse, pour une défense du secret bancaire au niveau international. Donc c'est vraiment les pressions étrangères, spécialement du gouvernement américain, qui ont poussé à ce tournant. Et ensuite, la succession des affaires, l'Union européenne est venue par-dessus et accentuer ce tournant dans la politique suisse.
Encore un tout dernier mot sur cet accord avant de justement prendre un petit peu de champ. Est-ce que la législation suisse permet de fournir les informations demandées par les pays avec qui il y a un accord ? Pour le dire autrement, est-ce que les données fournies par les établissements bancaires à son administration fiscale sont suffisantes pour espérer une amélioration de la lutte contre l'évasion fiscale ?
Donc, ici, comme je l'ai dit, c'est des accords qui sont pas encore tout à fait en vigueur, hein, les accords d'automatie, d'échange automatique d'informations. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une situation très paradoxale en ce moment avec l'administration suisse qui, théoriquement, devrait donner plus d'informations aux administrations étrangères qu'elle en possède sur les résidents suisses, puisque le secret bancaire reste encore en vigueur pour les résidents suisses. Donc il y a une situation très paradoxale où le droit international va plus loin que le droit suisse en ce moment, situation qui va probablement changer, mais qui montre qu'on est vraiment dans un moment de changement dans les pratiques administratives, et c'est très difficile au fait de répondre à cette question actuellement.
Donc il va falloir attendre encore un petit peu. Christophe Farquet, vous êtes historien, qu'est-ce qui fait, on va poser la question comme ça, qu'est-ce qui fait que la Suisse est parvenue à défendre le secret bancaire pendant autant d'années ? Quelles étaient les stratégies déployées pour empêcher les autres pays de s'en prendre au secret bancaire helvète ?
Oui, alors en fait, donc c'est une histoire qui remonte il y a très longtemps, près de 100 ans. Donc les premières pressions internationales contre le secret bancaire, pression assez forte, date de l'après-première guerre mondiale. Donc c'est les premières pressions, c'est notamment à la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, où il y a eu des tentatives d'accords multilatéraux, déjà des tentatives d'accords multilatéraux d'échange automatique de renseignements fiscaux. Et on essayait d'inclure la Suisse, qui à ce moment-là, effectivement, se transformait en un immense paradis fiscal pour capter les avoirs en fuite des pays, surtout des pays limitrophes à la Suisse, Italie, France, Allemagne, Autriche, qui fuyaient à ce moment-là l'instauration d'impôts sur le capital et également l'inflation et les troubles politiques. Donc c'est une histoire qui est de longue durée, mais c'est vrai que durant tout le XXe siècle, la Suisse, les dirigeants suisses sont parvenus à défendre le secret bancaire. Alors, disons, ils ont usé différentes stratégies. Tout d'abord, un atout qui a été déterminant en comparaison internationale, c'est le fait que les dirigeants suisses étaient extrêmement soudés pour défendre le secret bancaire. Il y avait, comme je l'ai dit, un très grand consensus dans la défense du secret bancaire suisse. Consensus avec acceptation, y compris de l'administration fiscale suisse, de défendre les pratiques d'évasion fiscale. Et ça, c'est assez spécifique en comparaison internationale. Et donc, les Suisses ont fait bloc contre les pressions étrangères, ce qui était un atout dans les négociations internationales.
Ils ont fait bloc, mais ils ont aussi mettre en place des alliances avec d'autres places financières, je pense au Royaume-Uni pour le coup.
Tout à fait, tout à fait. Bah, dès le début, ce qu'on voit, y compris à la Société des Nations, il y a une alliance avec la Grande-Bretagne notamment, qui aussi capte à ce moment-là des flux de capitaux offshore en direction de la City, avec quelque chose qu'on retrouve en fait à l'OCDE aussi dans les années 60, où les Suisses prennent explicitement en charge la stratégie d'obstruction aux négociations multilatérales, et avec derrière les Suisses, les Britanniques, qui soutiennent la position suisse, mais de façon plus édulcorée. C'est quelque chose qu'on retrouve effectivement tout au long du XXe siècle. Donc, alliance, ça c'est la deuxième stratégie avec les places financières étrangères.
La troisième, c'est ce fameux chantage au crédit avec les gouvernements étrangers. Alors là, en l'occurrence, la France est en première ligne, parce qu'il est arrivé effectivement que les Suisses parviennent à protéger leur secret bancaire en négociant avec la France ces fameux crédits.
Tout à fait, tout à fait. C'est une histoire qui se répète aussi sur tout le XXe siècle. Vous voyez ça à la fin du cartel des gauches en 1926, à la fin du gouvernement de Léon Blum en 1937, également sous le gouvernement Mitterrand en 1983. Vous voyez systématiquement un deal entre les dirigeants suisses, les banques suisses et le gouvernement français. Entre d'un côté les banques suisses qui offrent des crédits au gouvernement français qui est en crise, en partie à cause des fuites de capitaux, et contre ces crédits, le gouvernement français accepte de respecter le secret bancaire suisse. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve constamment tout au long du XXe siècle. Effectivement, c'est l'utilisation de l'arme financière des banques suisses pour défendre le secret bancaire, tout à fait.
Merci Christophe Farquet.
If you want to hide your dough offshore, while you're out making more, all the money's offshore.
Christophe Farquet, qui est donc historien, chercheur à l'Université de Genève. Et puis un grand merci à vous, Christian Chavagneux, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappellerai donc deux de vos ouvrages, Les Paradis Fiscaux, et puis surtout cette BD pédagogique, Les Aventuriers de la Finance Perdue. C'est chez Casterman.
Tout à fait.
Merci.
Merci.
Took more than the lion's share. Starving people have no choice, but he can buy a new Rolls Royce. Offshore, that's where you want to go. Offshore, if you want to hide your dough. Offshore, while you're out making more. All the money's offshore.
Ça vous fait rire, Christian Chavagneux, ce petit clin d'œil de fin, petit clin d'œil musical, petite perle dénichée par Charles Gargasson, le réalisateur de Culture Monde. Dans un instant, sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Caroline Bourret, mais juste avant, c'est La Vie Moderne. Très belle journée et à demain.